Donc, bonjour, chers auditeurs. Je me nomme William Couture, étudiant en administration au Cégep de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, pour notre émission, nous avons la chance de recevoir le jeune historien Nicolas Fournier. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Nicolas est un professeur d'histoire au Cégep de Saint-Jérôme. Il a étudié à l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Oui. Nicolas a fait sa maîtrise sur le sujet du nazisme. Donc, il est un expert dans le sujet. Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on va apporter, c'est vraiment le nazisme, mais précisément sur l'antisémitisme du nazi et d'Hitler. Donc, pour commencer, je vais vous poser une première question, Nicolas. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que l'antisémitisme? Donc, quelles sont ses origines?
L'antisémitisme, dans le fond, c'est du racisme à l'égard des Juifs. C'est une xénophobie, c'est également une tentative de les marginaliser, de les exclure, de les discriminer. Puis les origines de l'antisémitisme sont quand même très, très lointaines. Donc, il ne faut pas penser que c'est Hitler, quand il arrive au pouvoir en 1933, qui invente cet élément-là. Ça fait longtemps que ça existe comme concept. Déjà, dans le début du Moyen Âge, dans les sociétés occidentales, il y a un antisémitisme qui est présent. Donc, au Moyen Âge, assez régulièrement, il va y avoir là, des mesures qui vont être entreprises contre les Juifs. On va les enfermer dans certains quartiers. On va les taxer davantage que des chrétiens. De temps à autre, il va y avoir ce qu'on appelle des pogroms. Donc, c'est un peu du pillage de maisons, de boutiques juives. Aussi, des juifs qui vont être battus. Dans certains cas, on va aussi en exécuter. Donc, c'est absolument pas récent comme phénomène. C'est pas non plus unique à l'Allemagne. Donc, déjà à l'époque de Hitler, on constate un antisémitisme en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada également. Donc, ce qui se passe en Allemagne dans les années 1900, 1910, 1920, ça se voit un peu partout à l'intérieur de l'Occident.
Tu as parlé que c'est pas nécessairement Hitler qui a vraiment créé l'antisémitisme, mais quand est-ce que a commencé vraiment la haine d'Hitler face aux Juifs?
C'est une bonne question sur laquelle les historiens ne s'entendent pas réellement quant à la réponse. Lorsque Hitler va commencer à prendre les rênes du parti nazi dans les années 1919-1920, il est déjà extrêmement antisémite. Donc, les premiers programmes, si on veut, du parti nazi sont plutôt virulents à l'égard des Juifs. Donc, au sortir de la Première Guerre mondiale, Hitler est déjà plutôt raciste. La question, par contre, à savoir quand est-ce que ça a commencé, c'est plutôt nébuleux. Probablement que dans la cellule familiale de Hitler, il n'y a pas nécessairement un antisémitisme très flagrant. Même chose également durant la Première Guerre mondiale. Les hypothèses qui sont retenues, c'est soit au sortir de la guerre, il y a une espèce de haine généralisée contre la société allemande, contre la nouvelle République de Weimar. Également, il y a une espèce de légende qui s'appelle la légende du coup de poignard dans le dos, sur lequel les nationalistes allemands vont jeter le blâme de la défaite sur les Juifs, sur les communistes également. Il y a aussi peut-être un petit peu avant ça, Hitler a vécu pendant certaines années, bon, à Vienne, et déjà dans les années 1906, 1907, 1908, il y a un antisémitisme qui commence à devenir de plus en plus flagrant en Autriche.
Dans le fond, c'est sûr que Hitler, il aimait pas les Juifs, mais il considérait vraiment sa race et aryen comme supérieurs. Pourquoi il les considérait comme supérieurs?
C'est une bonne question. Il ne faut pas penser que c'est uniquement Hitler qui amène ça. Il y a également beaucoup de pseudo-intellectuels qui vont amener de l'eau au moulin en ce sens-là dans le parti nazi. Donc, c'est un courant là, qui est beaucoup plus généralisé qu'uniquement la pensée de Hitler. Dans le fond, il faut probablement se référer au darwinisme. À partir du 19e siècle, il y a Charles Darwin qui va développer l'idée de l'évolution des espèces, comme quoi il y a des espèces qui sont plus fortes que d'autres. Ensuite de ça, il y a des gens racistes qui vont reprendre l'idée de Darwin et qui vont aller beaucoup plus loin que Darwin en disant que à l'intérieur même de l'être humain, il y a des races, entre guillemets, il y a des races fortes, il y a des races faibles et il devrait y avoir, comme chez les animaux, une espèce de hiérarchie. C'est-à-dire, on a des races très très fortes qui devraient être des lions, donc qui sont des prédateurs, et au contraire, on a des races faibles qui doivent servir un peu, si on veut, de proie aux races un peu plus fortes. Donc, déjà, on voit apparaître ça là, à la fin du 19e siècle. Pas encore une fois, pas uniquement en Allemagne. Et du point de vue, bon, allemand, il y a l'idée qu'il y a une espèce de race germanique que les Allemands vont appeler la race aryenne, qui est supérieure, qui doit dominer les autres. On va trouver également des races qui sont apparentées à la race aryenne. Par exemple, les Scandinaves, notamment les Norvégiens, les Suédois, selon cette doctrine-là, ne seraient pas très éloignés de la race aryenne. D'ailleurs, ça explique en petite partie pourquoi, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Norvégiens vont être relativement bien traités par les Allemands, beaucoup plus que, par exemple, les Polonais ou les Tchèques, ou les Russes, ou les Ukrainiens, qui eux, au contraire, sont des Slaves, donc sont considérés comme faisant partie des échelons inférieurs à la hiérarchie sociale et raciale. Et finalement, ben, on bat complètement de l'échelle, on a les Juifs.
À la montée de Hitler au pouvoir, quelles étaient ses actions face aux Juifs?
C'est une très bonne question parce que lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, les actions qui vont être menées contre les Juifs sont plutôt modérés, du moins modérés par rapport à ce qui va arriver plus tard. Donc, il ne faut pas penser que dès qu'Hitler arrive, les Juifs se retrouvent dans des camps de concentration, puis on commence déjà les massacres qui vont survenir. C'est en bonne partie à partir du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale qu'on va commencer à massacrer des Juifs en grand nombre. Donc, quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, ses actions vont au contraire être plutôt modérées. Donc, on va créer des camps de concentration, mais ça va être très peu pour des Juifs dans un premier temps, ça va être beaucoup plus pour des opposants politiques. Les premières mesures qu'on peut penser, ben, c'est le 1er avril 1933, Hitler décrète un boycott des magasins juifs. Donc, ça fait que pendant une journée seulement, on dit aux Allemands, ben, si vous êtes des bons Allemands, n'allez pas encourager des commerçants juifs. Également, on commence à empêcher les Juifs de pratiquer certains métiers, comme par exemple d'être avocat, d'être professeur d'université. On commence à imposer des quotas dans les universités allemandes pour pas qu'il y ait trop de Juifs. Ensuite de ça, en 1935, on va appliquer les lois de Nuremberg, où on interdit un Juif et un Arien de se marier. Donc, il faut que le mariage soit entre personnes juives ou entre personnes ariennes. On va également, en 1935, retirer la citoyenneté allemande aux Juifs. Donc, ce qu'on veut, c'est littéralement leur saisir leur passeport, leur dire, vous n'êtes pas des vrais Allemands. Donc, quittez le pays de votre plein gré. Et en 1938, là, on passe à une autre étape. On passe à une étape violente avec ce qu'on appelle la Nuit de Cristal. Donc, la Nuit de Cristal, c'est un pogrom populaire qui va se dérouler avec l'assentiment du régime nazi. Donc, c'est des gens qui vont se promener dans les rues, qui vont fracasser des vitrines. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la nuit de cristal. Il y a beaucoup de verre, de vitre qui va être répandu sur le sol. Donc, on va incendier également un certain nombre de synagogues. Chose étonnante, les pompiers allemands vont recevoir l'ordre de ne pas intervenir, à moins que l'incendie d'une synagogue ne touche un bâtiment qui appartient à un Allemand. Donc, on voit quand même que le gouvernement était indirectement impliqué. La Nuit de Cristal est quand même assez fondamentale parce que c'est la première fois, c'est le premier événement où on voit que l'antisémitisme, la lutte contre les Juifs est quelque chose qui peut être violent et qui peut être tout à fait autorisé par le régime. Puis comme je disais, il faut attendre la guerre pour vraiment tomber dans les massacres de masse, dans les ghettos, dans les déportations et éventuellement à partir de 1942 dans la solution finale.
Te parler un peu de camps de concentration, à quoi ça référait ces camps de concentration? Ça peut être un terme qui est un peu vague pour ça, mais qu'est-ce que les Juifs faisaient faire dans ces camps-là?
Bien, à l'origine, un camp de concentration, c'est pas uniquement allemand. Il y a eu des camps de concentration dans d'autres pays dans le monde. Donc, par exemple, dans certaines colonies africaines, les Britanniques avaient des camps de concentration. En Russie, il y avait des camps de concentration pour les opposants politiques. Donc, un camp de concentration, à la base, c'est simplement une prison. Donc, les premiers camps de concentration sont créés en Allemagne assez tôt sous le nazisme, donc dès février ou mars 1933, sauf que c'est d'abord utilisé pour des opposants politiques, principalement des communistes. Donc, en 1933, on n'arrête pas encore systématiquement les Juifs pour les envoyer dans les camps de concentration. Plus le régime nazi va avancer, plus on va s'en prendre aux Juifs, et là, éventuellement, les camps de concentration vont être, pas uniquement, mais grandement dédiés aux Juifs. Donc, c'est des prisons, on enferme des Juifs. C'est également des lieux de travail. Donc, on condamne les Juifs à des travaux forcés. Donc, il y en a de différentes sortes. Ça peut être des usines pour produire des produits chimiques. Ça peut être des endroits où on va trier certains matériaux. Ça peut être des carrières. Ça peut être des endroits où il va y avoir des plantations. Donc, on fait travailler les Juifs. Et les camps de concentration vont quand même être très meurtriers, donc c'est pas nécessairement des prisons ordinaires, dans la mesure où les Juifs subissent de mauvais traitements. Donc même les Juifs qui doivent travailler, qui sont pas nécessairement mis à mort, peuvent quand même mourir assez rapidement. La nourriture est pas très bonne, le logement est épouvantable, il y a pas de médecin comme tel pour combattre les maladies, les bactéries, donc il y a souvent des épidémies. On fait travailler les Juifs dans des conditions épouvantables, des 15, 16, 17, 18 heures par jour. L'hiver, on ne leur donne pas nécessairement de vêtements chauds pour se protéger du froid. Donc, ça fait que ce sont des prisons, mais c'est des prisons où il n'y a aucun droit de l'homme en tant que tel qui est appliqué.
Parfait. On parle de camps de concentration, mais aussi de la création de camps d'extermination. Peux-tu me parler un peu de la différence?
La nuance est assez importante. Le camp d'extermination, comme je viens de dire, c'est une prison où on fait travailler les Juifs. Ça n'empêche pas le fait que dans les camps de concentration, on va quand même tuer en grand nombre des Juifs. Sauf que les camps d'extermination, c'est littéralement des abattoirs. Donc, le but des camps d'extermination, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu à peine 6 officiels. Le but, c'est d'amener les Juifs au camp d'extermination par train. Assez rapidement, il y a un triage qui est fait dès leur arrivée. Donc, on sépare ceux qui pourraient servir pour différentes tâches ouvrières et ceux qui sont trop vieux, trop jeunes, trop malades, trop faibles, peu importe, on les met de côté et on les envoie directement dans des lieux d'exécution. Dans les camps d'extermination, la principale méthode de mise à mort, c'est la chambre à gaz. Et aussitôt que les Juifs sont mis à mort, on ramasse les cadavres et on essaie de s'en débarrasser avec des fours crématoires. Donc, les camps d'extermination, c'est ni plus ni moins un abattoir.
Selon vous, ces événements, ils ont eu quel impact sur l'antisémitisme d'aujourd'hui? Les Juifs sont beaucoup mieux perçus un peu aujourd'hui, mais quelle est vraiment la grosse différence?
Bien, premièrement, il y a un impact démographique, c'est-à-dire à peu près les trois quarts des Juifs en Europe vont être exterminés par les nazis. Donc, la Pologne, entre autres, va perdre plus de 90% de sa population juive. En Allemagne, à Berlin, actuellement, il y a moins de 1 000 Juifs qui séjournent au moment où on se parle. Donc, les communautés juives qui existent en Allemagne ne sont plus très importantes d'un point de vue démographique. Puis, en même temps, tu fais bien de le mentionner, effectivement, la communauté juive est beaucoup mieux vue grâce à l'Holocauste. Parce qu'il faut comprendre qu'avant l'Holocauste, l'antisémitisme était plutôt généralisé en Occident. Donc, des fois, on se pose la question, pourquoi les Juifs n'ont pas quitté l'Allemagne? Pourquoi les Juifs sont restés en Allemagne sachant le danger qui les guettait? La raison, c'est parce que l'essentiel des pays occidentaux ne voudront pas les accepter. Donc, les Juifs vont faire des demandes pour venir s'installer aux États-Unis, au Canada, en France, et très souvent, pas dans tous les cas, mais très souvent, on va les refuser en leur disant, vous acceptez pas parce que vous êtes Juifs. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est uniquement l'Allemagne qui va être antisémite. Donc, les Juifs vont rester en Allemagne et malheureusement, il y en a énormément qui vont décéder. Donc, après la guerre, il y a un examen de conscience qui va être fait. Naturellement, l'antisémitisme va être mis au pilori. On va donc être énormément empathique vis-à-vis de la question juive et ça va énormément faciliter la création d'Israël. Donc, après la guerre, les Juifs vont réclamer un État. C'est pas nouveau comme demande. Ça fait déjà là, près d'un siècle qu'avec la création du sionisme, que les Juifs veulent avoir un État, idéalement au Proche-Orient. Et on va leur accorder à la fin des années 40, justement, en disant que c'est une belle façon pour se prémunir contre un nouveau massacre.
Selon vous, c'est-tu vraiment la faute des Juifs ou c'est vraiment une exagération?
Non, c'est nettement une exagération. Il y a quand même des facteurs, on peut dire effectivement que les Juifs étaient surreprésentés. Par exemple, les Allemands vont dire que les Juifs sont beaucoup plus riches que les Allemands ordinaires. C'est pas complètement faux comme argument, mais il faut dire que dans la communauté juive, il y avait un idéal pour faire des études. Donc souvent dans les universités allemandes, les Juifs étaient beaucoup plus représentés que les Allemands non juifs. Donc, ça faisait que dans les métiers, par exemple, comme professeur d'université, les intellectuels, les avocats, les médecins, il y avait un petit peu plus de juifs que leur poids relatif dans la société. Ceci étant dit, par contre, il y a énormément de juifs qui vont apprendre qu'ils sont juifs grâce aux nazis. Parce que si on avait demandé à beaucoup de juifs allemands s'ils étaient juifs ou allemands en 1933, 1934 ou 1935, il y en a énormément qui seraient dit et qui auraient dit et qui auraient répondu, ben nous sommes d'abord et avant tout des Allemands. Donc, il y a énormément de juifs qui vont terminer leurs jours dans les camps de concentration. C'est des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale pour l'Allemagne, qui ont été décorés pour bravoure au combat. C'est des gens qui ont un nom tout à fait germanophone. C'est des gens qui parlent allemand et qui ne parlent à peu près pas un mot d'hébreu. Et si on dit qu'ils sont juifs, c'est souvent parce que leurs grands-parents étaient juifs. C'est souvent des gens qui n'étaient pas très pratiquants, donc qui allaient à la synagogue une ou deux fois par année, essentiellement pour faire plaisir à leurs grands-parents. Donc, dans les années 30 et dans les années 40, quand les nazis vont faire des rafles, ils vont dire à beaucoup de juifs, ben non, vous n'êtes pas allemands, au contraire, vous êtes des juifs, c'est épouvantable. Vous ne faites pas partie de la société allemande. Il y a beaucoup de juifs allemands qui vont prendre ça comme une insulte en disant, ben non, je suis allemand, effectivement, mes ancêtres étaient juifs, mes grands-parents sont juifs, mais si on a à se définir, c'est d'abord autour d'une identité juive. Donc, c'est nettement une exagération de la part des nationalistes allemands puis des antisémites nazis.
Bien, merci beaucoup, Nicolas. On voit vraiment que tu es un expert dans le sujet. C'est très intéressant de voir comment le racisme était présent dans ce temps-là comparativement à aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci de nous avoir accordé votre temps.
Merci.